Bonjour internaute, alors je m'apprête à te raconter une de mes anecdotes de voyage préférées qui s'est passée avec mon pote Loris Monteux, mon pote vidéaste, on était en Guyane, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai enregistré cet épisode, il y a eu un petit problème de micro et par moment il a un peu saturé, donc c'est pas très agréable pour les oreilles, ça arrive pas souvent durant l'épisode, mais voilà, je voulais juste m'excuser pour ça, mais s'il te plaît, reste jusqu'au bout parce que tu verras que c'est une des histoires avec le plus de rebondissements qui me soit arrivé avec mon pote Loris, donc écoute-la.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ça, c'est de la vue, je crois. Ah, c'est magique, cet endroit.
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue bravo à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour, internaute. Aujourd'hui, je t'emmène en Guyane. Et la Guyane, c'est vraiment un des voyages qui m'a le plus marqué ces dernières années par son authenticité, par vraiment le côté brut de sa nature et surtout aussi la fausse image qu'elle véhicule alors que... Une fois sur place, tu te rends compte que c'est authentique, les gens sont chaleureux, c'est incroyable, c'est encore très bien préservé. Et du coup, ben forcément, quand tu as une dissonance entre ce qu'on tu entends et ce que tu vis, tu prends encore plus une claque. Et aujourd'hui, je vais te partager une anecdote de voyage, une vraiment des anecdotes où il y a eu le plus de rebondissements dans mes voyages, plus de suspense. Et au final, tu vas voir, ça s'est terminé assez, de façon assez dingue. En gros, c'était une partie du voyage, donc... Quand j'étais en Guyane, j'étais avec mon ami Loris, qui est mon ami vidéaste, et on était parti 15 jours, vraiment 2 semaines à travers la Guyane pour faire tout le tour de la Guyane, pour filmer la vraie Guyane. Donc on voulait vraiment avoir un petit peu tous les paysages, tous les styles d'ethnie, tous les styles de culture, toutes les expériences que tu pouvais vivre là-bas. Parce que la plupart des gens, bon, ben, ils restent autour de Cayenne, ils restent au bord de l'eau, et au final, ils découvrent pas ce qu'est la Guyane, c'est-à-dire normalement la jungle, la nature brute, ce qui représente 95% du territoire. Et en fait, on se trouvait à Sahul, donc il y a vraiment le village en plein cœur de la Guyane qui est, tu peux y aller que en avion, en petit coucou à hélice, où apparemment il existe un sentier que tu peux faire en quad, mais tu prends 15 jours pour y aller depuis Cayenne, donc autant te dire qu'on a pris l'avion. Et en fait on partait de cet endroit là pour arriver à Maripasoula, et Maripasoula c'est une ville qui est au bord du fleuve, le Saint-Laurent, et qui permet en fait de faire la frontière naturelle entre la Guyane et le Suriname. Et en fait, on voulait vraiment, pas descendre le fleuve, mais le remonter vers le nord, pour jusqu'à l'embouchure, jusqu'à Saint-Laurent du Maroni, pour justement avoir cette expérience qui est totalement différente de la Guyane, parce qu'il y a d'autres populations, c'est un autre style de vie, et en fait, la population qu'il y a justement ici est totalement différente du reste de la Guyane, et je vais y venir. Donc on est à Maripasoula. Et en fait, je m'étais arrangé pour justement descendre le fleuve, mais de façon traditionnelle, c'est-à-dire en pirogue. De toute façon, il n'y a que ça qui passe. Il n'y a pas des bateaux un peu à moteur comme tu peux l'imaginer. Imagine des pirogues traditionnelles, énormes, qui descendent, enfin plutôt qui remontent, qui descendent d'ailleurs dans les deux sens, ce fleuve pour acheminer des marchandises et des personnes. Et je me dis, il faut absolument qu'on vive cette expérience-là. Donc je me débrouille pour obtenir le numéro d'un piroguier, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Je me demande même plus comment je l'ai obtenu. Tu demandes à quelqu'un, tu connais pas un piroguier à Maripasoula, de toute façon, c'est ça qui est génial en Guyane, c'est que tout le monde se connaît, ils vont te filer le numéro d'un cousin, d'un truc, d'un machin. Et du coup, je me souviens avoir appelé 3-4 jours avant, genre « Ouais, bonjour, j'aurais besoin d'une pirogue à tel jour pour remonter jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. » Il me fait « Ouais, pas de problème, telle heure, rendez-vous, 7h30, 8h, sur le quai, etc. » Donc top. Donc on avait pris l'avion la veille, on avait dormi à Maripasoula. Et le lendemain matin, à la fraîche, on se réveille, on se dit « Waouh !» La mission de la journée, elle est simple. On remonte le fleuve, il y a à peu près 4-5 heures de pirogue. Le départ était à peu près vers 8 heures. Et on avait un avion à Saint-Laurent-du-Maroni pour justement ensuite pouvoir retourner à Cayenne, récupérer notre voiture et aller sur le prochain spot pour filmer. Donc l'avion était à 16 heures. Ok, on part à 7-8 heures, on s'est dit, ok, on va arriver à peu près vers 13 heures, on a 3 heures de rab, on est large, et après, tu vois, on est tranquille, on peut aller sur le prochain spot, tout va bien se passer. Donc on arrive le matin, on se lève, imagine vraiment une ambiance très brumeuse, sur les quais, c'est pas des quais, tu vois, bétonnés, c'est que la moitié de la boue et de la gadoue, avec un alignement d'énormes pirogues, mais pas des tout petites pirogues que tu peux imaginer, tu sais, des petits indiens, enfin des amérindiens qui sont là sur leur petite rivière au fin fond de l'Amazonie, non, c'est des espèces de troncs d'arbres gigantesques qui ont été coupés en deux, et en fait avec les années même, c'est vraiment devenu, tu sais, du bois flotté, qui est creusé, qui est tanné par l'eau et la rivière, avec... En fonction, certaines pirogues avec un petit toit c'est une bâche en fait qui est mise en cas de soleil, et t'arrives et en fait t'as soit une pirogue qui va être pour du frais, donc il y en a, ça charge des marchandises, donc t'as vraiment cette ambiance le matin où les gens ils chargent les pirogues, t'as de la brume qui passe, t'as l'odeur et le bruit des moteurs. Quand je dis l'odeur, c'est que c'est vraiment les moteurs à deux temps, tu sais, qui font tat tat tat, c'est vraiment avec la poignée, ça sent le fuel, c'est un mélange de plein de trucs, et finalement c'était une ambiance assez particulière mais qui te plonge immédiatement dans l'ambiance. Tu dis waouh, ok, là ça va être authentique. On traîne un peu sur la zone. Évidemment, deux backpackers, autant te dire qu'on était tous les deux. Ça se repère assez vite. Je dis, ouais, c'est où le nom du mec? J'ai senti le nom du piroguier. Une fois, c'est par là, vas-y, c'est sa pirogue là, t'attaques. Donc en fait, tu fais un peu un chemin de piste jusqu'au moment où on arrive à la bonne pirogue. Le mec te voit arriver, il a compris que c'était toi, t'as même pas besoin de te présenter. On embarque dans la pirogue, ça part, et là, je suis avec Loris. Les deux piroguiers. Pourquoi deux piroguiers? Parce qu'il y en a toujours un qui pilote et un devant pour contrôler qu'il n'y a pas peut-être des rochers, qu'il va y avoir des branches, qui va vraiment être sur la qui va être l'œil du pilote pour vraiment maîtriser la sécurité de la pirogue. Et nous deux au milieu, parce qu'au final, des fois, ils font des voyages avec 10, 15, 20 personnes. Là, à ce moment-là, c'était que tous les deux, ils prenaient des gens sur la route. On part. Et là, c'est notre meilleure vie. Tu sais, c'est cette espèce d'embrun, parce que là, les odeurs de moteur, évidemment, elles étaient derrière nous. Ça a laissé place à une espèce de fraîcheur, de brume, tu sais, quand tu sens la nature, un peu comme la rose du matin quand tu te lèves en camping. Et là, le bruit était aussi derrière nous, donc tu avais vraiment ce vent dans nos oreilles. Tu as vraiment la nature qui se levait à ce moment-là. On était au top. On fait 30 minutes de pirogue et on s'arrête dans un premier village qui est vraiment, justement, là, c'était le village typique de l'ethnie qui en fait qui est le long du Saint-Laurent, qui est l'ethnie en fait des anciens esclaves, parce que tous les gens qui ont colonisé ce fleuve-là, les ethnies, les petits villages qui se sont créés, c'est vraiment les anciens esclaves qui sont enfuis, et franchement ils ont géré, ils se sont enfuis de l'esclavage de leur maître, et en plus ils ont réussi à survivre dans un environnement qui n'a rien à voir quand même à la base avec leur terre natale, l'Afrique, ou les grandes plaines sur là où ils venaient. Et en fait ce qui est fou, c'est qu'on venait de passer 10 jours avec des Amérindiens, des Asiatiques, des locaux, enfin vraiment cette ambiance un peu amérindienne et Amérique du Sud. On arrive là, c'est un village rasta, vraiment avec que des Renois à la cool, super sympa, l'accent est différent, donc ils parlaient français et le dialecte local. Et il me dit, ouais, le pilote fait, écoutez, on s'arrête 10 minutes, je vais juste checker un truc et tout, et on repart. De toute façon, on avait 3 heures d'avance, donc autant dire qu'on était bien et ça nous permettait vraiment d'être dans le cœur du truc. C'est ça que je voulais. Je voulais pas juste être sur la pirogue et c'est bon, on est arrivé, terminé, tu descends. Donc c'était top. Et puis, du coup, on a dit, bougez pas, j'arrive. Mais du coup, on était un petit peu genre, on sort pas. Non, bon, je sortais vite fait autour de la pirogue. Vraiment, le quai, c'est, c'est le sable en fait. Et je vois au bout d'un quart d'heure, une minute, que le gars n'y revient pas. Donc je m'éloigne un peu, je commence à marcher vite fait un peu, donc dans le petit village, c'est une dizaine de grosses maisons un peu éparpillées, je commence à discuter avec des gens, alors comment ça va? Oh bah hier, petite actu, il y a quelqu'un qui est mort dans le village, oh merde et tout, t'as vraiment les actus de village, je me balade un peu à côté, je vois, bon, une demi-heure, ok, 40 minutes, alors là 40 minutes, c'est plus drôle, c'est plus, là tu penses plus à genre, oh c'est trop joli, les gens sont super sympas, tu penses à, il est où le gars? J'ai un avion en fait. Donc il faut pas non plus qu'on traîne trop. Et on avait zéro nouvelle, le mec n'était pas revenu dire écoutez, il se passe ci, il se passe ça. Au bout de 45 minutes, le mec revient. Il nous dit écoutez, je suis désolé, je vais pas repartir. Pardon, je comprends pas en fait ce que tu me dis, comment ça tu ne repars pas? En fait il y a mon oncle qui est mort hier. Et là je prends conscience que le seul mec qui a dû mourir depuis à peu près 6 mois dans le coin, c'est le mec qui est malheureusement mort hier, qui était son oncle. Et du coup, évidemment, dans ces cas-là, tu lui dis, si, tu repars. Évidemment, tu lui dis, mes condoléances, je suis vraiment désolé. Ok, je suis vraiment navré. Fais ce que tu as à faire. Juste, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, je lui explique qu'on a un avion. Donc le mec est embêté, évidemment, il gère sa tristesse. Et en même temps, il ne veut pas nous laisser dans la merde là. Et là, en fait, je suis en train de dire, ok, là, ça va devenir compliqué. Parce que si on n'a pas notre avion, ça veut dire qu'ensuite, il faut en choper encore un autre derrière. Mais je sais pas, parce que c'est pas des rotations. Il y en a, c'est pas la rotation Paris-Marseille-Air France, tu vois. Il n'y en a pas tous les jours. Évidemment, le nombre de places est 10-12. Donc, même s'il y en a d'autres, c'est vite blindé. Parce qu'une espèce d'omnibus, mais tu vois. Et on avait des choses aussi à filmer, parce qu'on était là pour filmer. Il y avait pas mal de rendez-vous, des choses comme ça. Je dis waouh, là, tout qui s'embrouille. Là, tu dis merde, t'es au milieu de nulle part, mec. T'es à 4 heures de pirogue de là où tu dois aller, même plus 4h30. Je dis attends, comment on fait? Enfin vraiment, faut que tu me... Je juste donne-moi une petite solution, même je me débrouille, mais qu'est-ce que je fais? fait écoute, je reviens, je vais trouver une solution. D'accord, là, le mec part. Et là, tu dis, ok, là, je suis pas bien. Je regarde mon pote Laurie, je dis, écoute, il repart pas. Il me regarde, il fait, pourquoi ? Je lui explique, il me fait, merde. Je lui fais, ouais. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes passent. Je vois toujours pas le gars. Le mec revient, me dit, c'est bon, il y a un piroguier qui va venir. Je dis, ah ouais, dans combien de temps ? Dans une heure et demie. J'ai fait, quoi ? Je dis, non, mais donc je lui réexplique. Je fais, là, en fait, je fais le calcul. Donc, ça arrive à peu près à un horaire où, même si on arrive, genre, où le mec est bon, tu vois, on commence à tracer avec la pirogue. On arrive genre à 15h30 pour le vol à 16h. Après, je me dis, c'est pas un vol international, on est bon. La pression monte. Donc, ok, j'ai eu le temps de faire le tour du village. Là, du coup, tu commences à pas être bien. Le mec arrive au bout de 1h30. Donc là, on est à peu près à 2h30 d'escale. T'es vraiment... t'as juste envie de partir parce que t'as cette pression de l'aventure. De dire, en fait, je suis obligé de partir, je suis obligé d'avoir cet avion, sinon c'est la merde. Le mec arrive. Il y a une énorme pirogue chargée à ras-bord. Mais à ras-bord, recouverte, c'est une espèce de... Les grosses bâches plastiques noires. Et on voit pas une seule place assise. En fait, on dit... ouais, bah en fait, c'est un piroguier, mais c'est une pirogue de fret, les gars. Et là, j'ai fait... Ok, pas de problème. Et le mec, je lui dis, tu peux nous descendre jusqu'à machin. Il fait, ouais, y a pas de problème. Tu vas-y, monte. Et je dis, mais tu peux le faire en combien de temps ? Bah, vas-y, il reste 4h, 4h30. Je fais, tu peux le faire en 4h. Je fais, je te paierai un peu mieux. Je vais essayer. Mais bon, on n'est pas dans taxi, si tu veux. Enfin, là, il met pas le pot booster avec l'aileron, etc. Tu restes sur une pirogue, sur une rivière où potentiellement il y a du courant, il y a des aléas, etc. On monte. Donc, déjà, rien que ça, c'était marrant. Parce qu'évidemment, tu passes sur les côtés. Vu que le milieu, il est surchargé, faut faire un peu l'équilibre sur le milieu, sauf que c'est une pirogue. Tu vois, ça chavire. Il n'y a pas des flotteurs sur les côtés. Donc, j'y vais en premier, je prends les sacs. Et mon pote Loris, qui n'est pas un équilibriste de génie, tu vois, c'est pas son délire. Il est très fort en vidéo, il est très fort dans plein de choses. Mais l'équilibre, c'est pas son délire. Et là, je me suis dit, attends, je vais prendre les sacs. Parce que potentiellement, on va pas pouvoir partir, il va tomber dans l'eau, le sac va prendre l'eau. Et, c'est genre de moment où en fait tout s'enchaîne après. T'as que des merdes, tu vois. J'ai dit, attends, on s'en sort, on arrive à s'installer entre trois trucs, à trouver une petite place un peu confortable sur la bâche. On part. Et là, tu vois, la pression redescend. Elle redescend, on commence à prendre de la vitesse, le mec, tu vois qu'il est bon, t'as le piroguier qui est devant et t'as le pilote derrière. Et le mec, limite, prend beaucoup de vitesse. Et des fois, genre, le mec me fait peur, je suis, waouh, là, ça se resserre beaucoup. Il y a un moment, il y a des rochers, je les vois, tu sais, avec les petites, dans les films, quand il y a des petites cascades, là, tu vois, où tu dis, attention, on va tous mourir. Non, bon, là, c'était pas à ce point-là, genre, il faisait pas 10 mètres, mais t'avais des rochers, et je dis, mais il va vite, il n'y a pas de frein. Comment on va passer entre ces rochers ou comment je les regarde, j'ai l'impression qu'on va se fracasser la gueule dedans. Sauf que le gars en fait devant il dit ouais droite gauche 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 gauche. Et tu sais le mec il disait des trucs, bon je pense qu'il disait un peu des trucs comme ça parce qu'il le disait dans leur dialecte local. Le mec passait pleine balle à franchement littéralement 20 cm de chaque rocher de chaque côté. On devait être à 40 à l'heure là-dedans. J'ai fait après en fait ce qui est marrant c'est que tu dis l'avion c'est pas grave en fait. Tu sais, si on loupe finalement, c'est pas si grave, enfin, on va s'arranger, puis au pire si on filme pas une séquence. Et là, tu commences à relativiser avec la mesure du risque qui s'élève. Parce qu'au début, ton seul risque, c'est de louper l'avion, de louper un tournage. Et là, c'est te dire, je peux me noyer, je peux perdre tout mon matos. Ok, finalement, tu relativises. Et c'est ça que j'adore dans le voyage. C'est qu'en fait, en fonction de ta situation, ton degré de est-ce que c'est important ou pas, est-ce que vraiment ça sert vraiment de pousser les choses, et bah tu vois, ça te remet dans le contexte. Bref, le mec fonce, on commence vraiment à avoir de l'eau dans le visage parce que du coup, t'as les vagues des rochers qui nous reviennent sur la gueule, etc. On arrive sur un moment calme et là, on dit, ah, c'est bon, on va y aller. Le mec, on regarde le temps, on est dans les temps. T'as un espèce d'énorme nuage au loin qui arrive. Mais tu sais, ciel bleu avec un nuage, c'est plus gris, c'est noir. Là, j'ai fait, ouais, Loris, qu'est-ce que c'est que ça ? Je regarde le pilote, il me commence à rigoler, je fais, ok, j'ai compris. On commence à sortir de nos sacs, nos ponchos. On a à peine le temps, mais littéralement en 1 minute 30, je commence à sortir mon poncho, tu sais, je le mets, j'essaie de le déballer. Puis tu sais, les ponchos, c'est chiant, tu vois, c'est une espèce de grande toile en bâche en QT7 mètres, tu comprends jamais à l'endroit à l'envers. Je le mets. Et Loris essaie de mettre le sien qui était un peu plus petit. Et quand il essaie de le mettre, il le met à moitié. Et en fait, lui, il l'avait mis à l'envers. Donc je le vois en fait avec la capuche sur le visage, la pluie qui commence à nous tomber dessus. Et en fait, moi je l'avais mis, mais en fait, je l'avais mal positionné, ce qui fait que ben, ça avait fait une rigole qui descendait directement dans ma chaussure. On commence à se retrouver trempé parce que là, en l'espace de 4 minutes 5, on est littéralement, mais c'est un seau d'eau qui nous tombe sur la gueule. Limite, on était là à écoper un petit mec qui nous dit tiens, prends le petit gars, le truc à côté de toi là, écope un peu. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est, je voulais de l'authentique. Là, j'ai dû. C'est plus de l'authentique, c'était dans l'aventure. Tu fais partie du film. Toi, t'es plus spectateur, t'es acteur. Et t'as plutôt intérêt à bien agir, sinon la pirogue, elle se remplit. Bref, le truc dure 5-10 minutes. C'est tout est rincé. Nous, on tape une barre de rire avec Loris. Finalement, on a réussi à protéger le matos. Et on commence à se détendre un peu, à mesure de voir que malgré tout ça, on arrive à être dans les temps. Et je commence à chauffer parce que là, le fleuve se réélargit. On arrive, je dis, man, il est 15h20. C'est-à-dire que si on arrive, il faut qu'on se démerde pour l'aéroport. On va être une demi-heure à l'avance à peu près. On va être nickel parce que la dernière fois qu'on avait pris l'avion, franchement, ça, pff, mec, ils arrivent, t'embarques, terminé. Enfin, ça joue. Ils arrivent à l'heure, voire souvent un peu à la bourre, vu qu'en fait, c'est des rotations. C'est l'avion, il fait tout le tour toute la journée de tous les spots. C'est le même avion en fait. Donc, c'est comme un bus. S'il a un moment un retard, 10 minutes quelque part, il va l'avoir partout et à la fin de la journée. Il a peut-être 40 minutes de retard, tu vois, t'en sais rien, ou voire une heure. Donc je me suis dit, on est large maintenant, c'est trop cool. Mais on est en pression quand même, tu sais, on voulait pas lâcher ça. Donc je dis à Loris, on arrive chez Loris, trouve un moyen de nous emmener à l'aéroport, moi je gère les sacs, parce que pareil, rééquilibre. Donc juste le moment où je me dis, prends ton temps pour sortir, gère le transport, moi je gère le payer, gère le gars, gère les sacs, etc. J'arrive, donc je me retourne vers le gars, je prends les bifetons, je fais tiens, je suis filé un pourboire, je fais merci mec, t'as assuré, je prends les sacs. Bon, normalement, j'ai l'impression que je me suis vrillé une cheville dans un espèce de, tu sais, entre le bois qui glisse un peu avec la flotte, avec la chaussure qui fait floc, et puis l'espèce de marchandise un peu mal mise sous la bâche. Bah, je m'éclate à moitié la cheville, je sors, j'arrive, je vois Loris avec un grand sourire, il me fait « C'est bon, il nous emmène !» Je regarde, il est à côté d'un quad, jusqu'il est tout va bien, c'est un gamin de 10 ans qui conduit le quad. Je fais « Quoi ?» Il fait « Ah, c'est bon, il nous emmène gratuit !» Je fais, ah bah tu m'étonnes qu'il s'emmène gratuit, mais il s'est conduit, il fait ouais, il avait une remorque à l'arrière. Le gars il fait ouais, pas de problème, vas-y, monte, vas-y, je vous emmène. Le mec était sur chaud, j'ai fait vraiment, c'est cet instant où tout s'arrête, genre ok, tout est normal, on y va. Boum, je tanque les sacs dans la remorque, le gamin il va pleine balle avec son quad qui est énorme ici, bouf, limite dans les virages, il y avait un mini rond-point, on voit le truc se lève à moitié, moi je suis dans la remorque, je suis à la fois, je suis un mélange de. En fait, là, on va se cracher, on a failli à s'en sortir, mais on va se péter la gueule, on va se manger la tronche, et c'est quand même cool, parce qu'il y a de l'adrénaline. On arrive à l'aéroport, on est là, putain, Loris, putain, on y est arrivé, trop cool, nanana. On arrive, donc une demi-heure à l'avance, nickel, et on voit personne. Et on avait vu une seule personne, genre 200 mètres avant d'arriver dans le petit aéroport, c'est un aérodrome, hein, c'est une cahute avec une piste en terre, hein, qu'on se comprenne. Hein. Et là, on comprend pas, je sais pas, il est où l'avion et tout. Un petit gamin, je sais pas, je crois qu'il est parti, j'ai vu un avion tout à l'heure. Comment ça, t'as vu un avion tout à l'heure? On est en avance. On revient en arrière, on va voir la nana, parce qu'on a vu qu'elle était en tenue un peu officielle, enfin tu sais, de bureau. Et en fait, c'est la nana qui faisait les check-in. Et elle dit, bah non, mais l'avion, il est parti. Je sais, ça c'est pas possible. Parce qu'un avion, ça part pas en avance. Enfin, il part à 16h, là, il est 15h30, 35, on est bon. Enfin ouais, mais non, mais en fait, aujourd'hui, je sais pas, les rotations étaient bonnes, il y avait tous les gens qui étaient sur le check-in, ils étaient là, du coup, il part, il perd pas de temps, parce que des fois, il reprend du retard. Et là, tu te retrouves pour la première compagnie du monde qui part en avance. C'est-à-dire que oui, il y a un check-in, mais justement, t'arrives, tu t'inscris, donc sur un bout de papelard, le mec, il est là, il appelle les noms, tout le monde est là, allez hop, on y va. Et vu qu'on avait pas fait le check-in, parce que tu le fais pas non plus par internet, là, hein, tu fais vraiment genre, salut, c'est moi, je m'inscris, mon nom, on y va. On se retrouve à se dire, mais c'est pas possible, il nous arrive tout ça. On est en avance, on arrive à surmonter ce challenge, cette aventure, et on rate notre avion. Évidemment, je dis attends, parce que l'aventure, dans l'idée, on devait prendre l'avion, on devait prendre un petit spot, le soir même à Cayenne, pour aller après le lendemain matin sur le tournage. Il dit, dans l'idée, on a rendez-vous à 13h, le lendemain, est-ce qu'il y a un avion le lendemain? Elle me fait, oui, il y a un avion le lendemain. Donc là, tu fais, à quelle heure? Parce qu'il pouvait être à 16h, donc c'était mort. Il fait, à 9h30, oh, je fais, écoute, il nous faut une place. Elle me fait, oui, mais je sais pas s'il y a de la place. Elle me fait, revenez demain matin. Oh là là. À ce moment-là, écoute, on passe la nuit. On revient le lendemain matin. Évidemment pas à 9h. Hein. On revient à 7h30, à 2h avant pour être sûr. On arrive, on voit la même nana. On lui dit, écoute, faut que tu nous fasses rentrer dans l'avion. On est obligé vraiment de devoir prendre cet avion pour le tournage. On explique. Et la nana est super concernée. Elle commence à appeler le siège de la compagnie. Nanana, elle explique. Elle fait, écoutez. Je vais essayer de faire déplacer deux passagers, peut-être, etc. On verra, parce que c'est un nombre de places limité. On attend une heure. Toujours pas. Elle fait, non, j'ai pas de retour. Une heure et demie. Il est 9h. Toujours rien. Juste avant le vol, elle fait, c'est bon, je vous ai trouvé deux places. Je fais, c'est vrai? Vraiment? Enfin, ouais, c'est bon, il y a deux places. Donc là, tu t'exultes. Tu dis, enfin, je vais pouvoir prendre mon avion. Tu sais, c'est vraiment ce moment où tu dis, ah, c'est bon. Tout va bien se passer. L'avion atterrit, super. Donc on a enregistré, on s'est enregistré avec les bagages, on se pèse, donc parce que dans ces avions-là, c'est des avions, il y a 15 places. Donc ils pèsent ton poids, toi, et celui des bagages, pour être sûr que t'es pas en overcharge. Tout va bien, bam, boum, on arrive. On est sur le tarmac. Donc imagine une ambiance de tarmac quand même, de coucou, avec la terre qui vole à moitié, t'as les hélices qui tournent encore parce qu'ils éteignent pas le moteur, t'as un vacarme assez assourdissant, t'es sur le tarmac, et là la personne dit « Ah par contre vous pouvez embarquer vous, mais le bagage reste là !» Je dis « Quoi ?» Je fais « Oui, parce qu'en fait là ça dépasse la charge, j'ai pu vous trouver des places, mais vous pouvez pas partir avec vos bagages. » Donc là je me retrouve, tu sais, devant mes bagages, à mes pieds, sur le tarmac, je regarde la fille, je regarde l'oriste, qui me dit « Vraiment, t'es sans voix, qu'est-ce qu'on fait ?» Je regarde l'avion qui est littéralement à 10 mètres sur ma gauche avec, tu sais, l'assistante de bord. Tu sais, c'est le petit escalier qui c'est un peu comme les jets privés, en fait, qui se mettent sur le tarmac, qui est prêt à le remonter, genre, là, on embarque maintenant, les gars. Donc là, t'as le vacarme. La personne te dit, c'est soit tu pars maintenant, soit tu prends tes bagages, mais tu pars pas. Et là, tu dis, je fais quoi ? Et là, Loris, il me fait ce moment, je fais, écoute, mec, j'ai tout le matos pour filmer. Si tu veux, on peut y aller. Et là, il y a un espèce de moment de silence où le temps s'arrête. Tu dis, j'ai mes bagages. J'ai juste rien sur moi, j'ai juste mon ordi, bon, les trucs de valeur, mais j'ai pas de brosse à dents, j'ai pas de caleçon, j'ai rien. Je suis en short t-shirt, je regarde mes bagages, je regarde l'oreille, je regarde l'avion, il y a un vacarme de malade. Je sais, vas-y, on y va. Et boum, et je lui dis, mais comment on retrouve les bagages? Tiens, en partant, en train de faire, on les emmènera à Cayenne, et les gens, enfin, tu pourras les récupérer. Je suis là, mais nous, on n'est pas là avant 2 jours. Oh là là, on monte dans l'avion, on décolle, on arrive finalement à prendre l'avion, putain, mais tu sais, en se disant, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et au final, on a réussi à aller à un tournage à l'heure, à récupérer nos bagages 2 jours plus tard, avec, ok, un peu d'inconfort, mais je me suis dit, putain, c'est ça le voyage. C'est toujours être prêt à être flexible. C'est toujours être prêt, en fait, à te demander qu'est-ce que tu perds pour qu'est-ce que tu gagnes. C'est vraiment ça. Et la plupart des gens qui veulent partir voyager, la plupart des gens qui veulent vivre des choses incroyables, ils veulent ça. Mais ils ne sont pas prêts à faire des concessions sur ce qu'ils vont perdre. C'est toujours obligé. Il y a toujours, et surtout quand tu vas chercher l'inconfort, quand tu vas aller voyager dans les... Tu vas perdre du confort. Tu vas potentiellement perdre ta sécurité, peut-être d'un logement, de ton job, parce qu'il va falloir le quitter pour partir plusieurs mois, pour vivre quelque chose. Il va falloir partir dans l'insécurité du fait que tu ne vas pas savoir. Mais tu ne sais pas, mais tu as une idée de ce que tu vas gagner. En tout cas, ça vaut le coup de parier dessus. Parce qu'évidemment... Ça se trouve, on ne serait pas arrivé à l'heure pour le tournage, on aurait tout foiré, j'aurais pas de vêtements, je pourrais pas me changer pendant 2 jours, et en plus, enfin, tu vois, mais il fallait prendre ce risque-là. Et je me suis dit, mais quand tu es toujours déterminé à essayer d'être en permanence sur le qui-vive et flexible à ce qui peut t'arriver, encore une fois, à aucun moment on a lâché l'affaire, à aucun moment on était toujours ambiance, c'est quoi la prochaine solution? On ne pouvait pas baisser les bras, et à chaque fois il nous arrivait une petite merde, mais au final, tout s'est bien passé. Et c'est vraiment ça que tu dois garder en tête. Quand tu as envie de partir en voyage, quand tu as envie de vivre quelque chose de fort, quand tu as envie de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, demande-toi ce que tu es prêt à perdre pour pouvoir gagner plus. Évidemment, le plus, c'est peut-être plus de bien-être, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais vécu, mais qu'il va falloir abandonner peut-être le confort de tes amis, ou tu sais, le manque peut-être que va te procurer, enfin que tu vas avoir vis-à-vis de ta famille ou tes amis pendant que tu vas partir voyager. Et ça va peut-être être dur, tu abandonnes ça, ce lien familial, au profit peut-être de toi de te découvrir. Et si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose pour obtenir quelque chose de nouveau que tu n'as jamais obtenu, il y a peu de chances que tu y arrives. Parce qu'il y a toujours une concession à faire. Et si tu es prêt à le faire et que tu es toujours flexible, je peux te garantir qu'il t'arrivera que des choses incroyables.